Bonsoir à tous. J'aimerais encore remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Et ensuite, on fera une lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 12. Merci Seigneur pour ce temps que nous pouvons encore avoir à entendre ta voix, Seigneur, à ouvrir le Saint-Livre. Et Seigneur, ce que nous te demandons, c'est que le message que tu as sur ton cœur puisse être déposé dans nos cœurs à nous, Seigneur. Et nous te demandons vraiment l'onction de ton esprit sur ces instants, pour que nous puissions recevoir de toi. Merci parce que de toute éternité, tu as déjà tout prévu, Seigneur. Et nous voulons te dire merci d'avance pour ce que tu vas faire ce soir et que toute la gloire revienne à ton nom. Amen. Alors j'aimerais qu'on lise un premier texte qui se situe dans l'évangile de Marc, au chapitre 12. Comme disait Monsieur Hugo dimanche, il y a des fois des choses qu'on a déjà entendues, mais c'est salutaire de les réentendre et de les réentendre et de les réentendre encore, parce que c'est comme cela que on peut aller jusqu'au bout. Et donc, la première lecture se situe dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, et ensuite on fera une autre lecture dans l'Apocalypse. Donc Marc, chapitre 12, verset 41. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé les disciples, leur dit : Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Nous allons dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, maintenant. Et ce livre a été écrit par l'apôtre Jean, qui a une révélation. Il a été ravi au ciel et il a vu des choses. Et notamment, il va voir Jésus glorifié. Jésus glorifié. Et au verset 12, il est écrit, Apocalypse chapitre 1er, verset 12, « Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Au chapitre 2 et au verset 1, Jésus glorifié a un message pour les différentes églises, pour cette église. Et à la première des églises, voici son message. Il va dire, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Et on arrête la lecture là, on lira la suite du message après. Et je vous lis un texte qui se situe dans 1 Samuel au chapitre 16 et au verset 7. Il est écrit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. La première chose que j'aimerais que l'on voit ce soir, c'est que dans ces différents textes, on voit que Dieu ne regarde pas les choses de la même manière que nous. Il y a des choses qui sont importantes pour l'homme, il y a des choses que nous on regarde, mais que Dieu ne regarde pas. Et il y a des choses que nous, on ne peut pas voir, mais que Dieu, lui, regarde. On a vu dans le texte de Samuel que Dieu a regardé, considéré, il a fait attention à ce que Samuel ne pouvait pas voir, il a fait attention au cœur des personnes qui se présentaient devant Samuel. Samuel cherchait un roi pour Israël. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le premier fils d'Isaïe arriver. C'était un homme, c'était écrit qu'il était grand, qu'il était beau. Et Dieu va lui dire, ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Samuel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé l'apparence de ce candidat à la royauté, mais Dieu a regardé à son cœur. Et plus tard, on verra qu'il a choisi David. Pour le texte de la veuve dans Marc, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui mettaient de l'argent dans le tronc. Et c'est vrai que les hommes, ils regardaient la quantité d'argent. Mais il ne nous est pas dit que Jésus regardait combien la foule mettait d'argent. Il est écrit au verset 41 que Jésus, assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule mettait de l'argent. Ce qui comptait pour Dieu, ce n'était pas la quantité d'argent. Ce qui comptait pour Dieu, c'était l'intention qu'il y avait derrière. C'était comment l'argent était mis dans le tronc. Dans le texte de l'Apocalypse, il nous est dit que Jésus glorifié, verset 14, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Vous savez, le feu, c'est quoi? Le feu, c'est ce qui éprouve les choses. Hein, dans 1 Corinthiens 3, verset 13, il est dit qu'au jour du jugement dernier, enfin, du tribunal de Christ, le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu, c'est ce qui éprouve. C'est ce qui éprouve les choses. Éprouver, c'est quoi? C'est juger de la valeur de quelque chose au moyen d'un critère. Ça veut dire que les yeux du Seigneur, ce qu'il voit, ce n'est pas juste ce qui est visible, ce qui frappe les regards. Dieu voit plus loin. Son regard éprouve les choses. Il voit plus que ce que nous, on peut voir. Il peut voir plus qu'un service, plus qu'une œuvre. Le Seigneur, il peut voir nos motivations, ce qu'il y a dans notre cœur. Ce qu'il y a dans notre cœur. Et maintenant qu'on a vu ce principe, on va l'appliquer à l'église qu'on a vue dans l'Apocalypse, l'église d'Éphèse. Mais je pense que plus que l'église d'Éphèse, nous allons appliquer ce principe à nos vies, à chacune de nos vies. Et on voit l'église d'Éphèse. Et on voit quand même que cette église, c'est pas n'importe quelle église. Jésus va dire, je connais tes œuvres. Ça veut dire que c'était une église qui faisait des œuvres. Elle n'était pas inactive, elle ne faisait pas rien. Elle œuvrait, elle faisait des choses. Qu'elle connaît son travail. Le travail, c'est pas juste faire une œuvre, c'est y prendre de la peine. Ça veut dire que cette église, elle prenait de la peine pour faire des œuvres pour Dieu. Il va dire, je connais ta persévérance. Ça veut dire qu'elle fait des œuvres, elle y prend de la peine, et qu'en plus elle persévère, ça dure dans le temps. Elle ne se relâche pas. Il est écrit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ça veut dire que cette église, elle connaissait parfaitement la saine doctrine et qu'elle était capable de savoir si une personne venait de Dieu, si elle venait vraiment de Dieu ou si ce n'était pas le cas. Elle avait du discernement. Elle connaissait la doctrine. Et attention, le summum, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Cette église, elle a même souffert, pas parce qu'elle a péché, elle a souffert à cause du nom de Jésus. Ça veut dire que même, elle a enduré des persécutions parce qu'elle a été fidèle à Jésus-Christ. J'ai envie de vous dire, c'est un sacré CV, hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'églises qui ont toutes ces caractéristiques réunies. J'ai envie de dire, mais quelle église? Quelle église? Mais malgré tout ça, malgré tous ces bons points, malgré toute cette bonne œuvre, le Seigneur, il va dire quelque chose à cette église. Il a discerné, il a vu quelque chose que personne n'aurait pu soupçonner en voyant cette église. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et on pourrait se dire que Dieu doit être satisfait quand même d'une église qui fait toutes ces choses. Qui œuvre, qui travaille, qui persévère, qui souffre pour son nom, qui connaît la doctrine, qui ne se lasse pas. Et pourtant, il avait quelque chose qui n'allait pas. C'est que cette église abandonnait son premier amour. Et on voit que pour Dieu, il y a quelque chose qui est plus important que toutes les œuvres que l'on peut faire pour lui. Ce qui est plus important, c'est la relation que l'on a avec lui. Parce que cette église, elle avait les œuvres, elle avait le service, elle faisait tout à la perfection, et pourtant, la relation qu'elle avait avec Dieu, l'amour que cette église avait pour son Dieu, était en train de se dégrader. Et ce qui compte le plus pour Dieu, c'est pas ce que je peux faire ou ne pas faire pour lui. Ce qui compte pour Dieu, plus que toutes ces choses, c'est la relation que j'entretiens avec lui. Ce qui compte, c'est pas juste les œuvres que je fais. Ce qui compte, c'est pourquoi je fais les œuvres. Et on voit dans le texte de Marc, avec cette pauvre veuve, que Jésus va dire qu'elle a donné plus que tous les autres. Ça veut dire que les 2 centimes de cette veuve valaient plus aux yeux de Dieu que les milliers ou les millions que les autres pouvaient donner. Dans Jean chapitre 17, verset 3, il est écrit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans ce texte, on voit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et là, dans ce texte, connaître, c'est pas juste une connaissance intellectuelle. Le sens du mot connaître ici, c'est une intimité avec Dieu. Et donc, au final, si on raccourcit, on peut dire que le salut, la vie éternelle, c'est quoi? Ben, c'est une relation d'amour avec Dieu. La vie éternelle, le salut, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. C'est qu'il soit intime avec toi. À ses disciples, Jésus va dire juste avant, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ça veut dire que ce que le Seigneur veut, c'est pas d'une relation de maître à esclave, de maître à serviteur. Ce que Dieu veut avec nous, avec vous, chacun d'entre nous ici, c'est une relation d'amitié. Une relation d'amitié. C'est ce que Dieu veut. C'est ce qui est important pour Dieu. Plus que tout ce que je peux faire. Pour moi, là, c'est après, ce soir, je vous prêche. Mais le plus important, c'est pas que je vous prêche. Le plus important, c'est la relation que j'ai avec Dieu. Et c'est à ça que Dieu regarde, quand il me regarde. Et quand il vous regarde à vous, c'est à ça qu'il regarde. Plus que tout. Imaginez, vous avez un enfant. Il fait tout ce que vous lui dites, mais tout, hein. L'enfant parfait. Il fait ses devoirs, il met son linge au sale, il fait la vaisselle, il est obéissant, il va se coucher à 8 heures. Il fait tout parfait, l'enfant parfait. Il râle jamais, il pleure jamais. Mais il y a juste un petit problème, c'est qu'il vous aime pas. Est-ce que ça vous irait? Et puis imaginez, maintenant que vous avez un enfant, ah il fait des efforts, hein. Mais bon, à l'école, il n'est pas, c'est pas ça. Bah des fois il a des caprices, des fois il met ses chaussettes à côté de la corbeille de linge sale. Mais par contre il vous aime. Vous préférez lequel alors? Qu'est-ce que vous désirez comme relation avec vos enfants? Ah quand même, le second. Et pourquoi ce serait différent avec Dieu? Pourquoi ce serait différent avec Dieu? Bien sûr que l'obéissance c'est important. Bien sûr que le service, c'est important. Mais c'est qu'une conséquence de l'amour. C'est qu'une conséquence de l'amour. On peut tout faire parfaitement, mais sans amour. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. 1 Jean 3:1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si Dieu nous appelle enfants, c'est justement un amour qu'il nous témoigne. Ce qu'il veut, c'est pas que nous soyons des serviteurs. De toute façon, servir Dieu, c'est une logique. Il est au-dessus de nous, il est Dieu. Le servir, c'est quelque chose de complètement logique. Mais ce qu'il veut, c'est qu'il y ait de l'amour. Qu'il y ait de l'amour. Matthieu 4, verset 10, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. » Donc le service est une conséquence de l'amour. Mais ce n'est pas parce que je sers que j'aime. Vous comprenez, il y a un sens, tu l'adoreras, et, ça veut dire après, tu le serviras. Si on regarde le premier commandement, c'est un pharisien qui va demander à Jésus, c'est écrit dans Matthieu au chapitre 22, verset 36, il va lui dire, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le premier commandement, c'est pas à propos du service ni à propos d'une œuvre. Le premier commandement, c'est à propos de notre relation avec Dieu. Ce que Dieu veut en tout premier, c'est cette relation d'amour. Et on peut remarquer que le deuxième, c'est pas non plus un service. C'est en rapport avec notre relation les uns avec les autres. L'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres. C'est les deux plus grands commandements. De ces deux commandements dépendent toute la loi et toutes les prophètes. Tout découle de ces deux commandements. Tout découle de la relation que l'on a avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, verset 3, c'est écrit que quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors ce soir, on pourrait se poser la question, mais on pourrait se poser la question suivante. Où est-ce que j'en suis par rapport à mon service? Mais je pense que la vraie question, c'est où est-ce que j'en suis par rapport à ma relation avec Dieu? Parce qu'on peut faire comme Éphèse. On peut continuer les œuvres et on peut délaisser notre intimité, notre amour avec Dieu. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? Au final, il peut y avoir trois cas. Soit je peux être en bonne relation avec Dieu, ça va bien. Soit la relation, elle est en train de se dégrader, comme pour l'église d'Éphèse. Soit la relation, elle a été rompue et elle n'existe plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans les trois cas, on peut faire en sorte que cette relation avec Dieu continue. Alors s'il n'y a plus la relation avec Dieu, que faire? Ou si elle est en train de se dégrader? On voit que dans l'Apocalypse, il y a un conseil. Le premier, dans l'Apocalypse 2, verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Se souvenir, se rappeler. Et je crois que la première chose à se rappeler, c'est que cette relation d'amour avec Dieu, elle est voulue et elle est désirée par Dieu. Toute la Bible nous montre que l'œuvre de Dieu consiste à restaurer la relation avec lui qui a été brisée par le péché. Le pardon de nos péchés, ça a un but. Le but, c'est de restaurer cette relation avec lui. Et ce soir, il faut que vous sachiez tous que vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes aimés de Dieu et il y a une preuve de cet amour. Dans Romains 5, 8, il est dit que Dieu prouve, il y a une preuve. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6, il est écrit que l'amour est fort comme la mort. Et Dieu nous a aimés. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Dieu t'a aimé jusqu'à la mort. 1 Jean 3, verset 16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Jésus a bravé la souffrance. Jésus a choisi volontairement de prendre la croix, de souffrir et de mourir parce qu'il vous aime. Et ce soir, même si vous ne voulez pas de cette relation, ça ne change rien au fait que Jésus, que Dieu vous aime et qu'il vous l'a prouvé. Et on voit même que c'est lui qui a fait le premier pas. Et ce soir, si vous entendez sa voix, alors que vous êtes, que cette relation elle s'est éteinte, c'est encore là une preuve que Dieu vous aime et qu'il vous appelle et que, encore une fois, il refait le premier pas parce que ce qu'il désire, c'est cette relation d'amour avec vous. La deuxième chose à se rappeler, c'est que Dieu ne nous aime pas parce que nous le méritons. La Bible dit dans 1 Jean 4,16 que Dieu est amour. Et si Dieu nous aime, c'est parce que c'est dans sa nature. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Ce n'est pas à cause de nos mérites. Imaginons que parmi nous, il y ait la pire des personnes qui auraient fait le pire des péchés, qui soit la moins aimable de ce monde, elle serait quand même aimée de Dieu. Parce que Dieu est amour. Ça ne dépend pas de nous. Vous ne pouvez rien faire pour mériter son amour. L'amour de Dieu, c'est un don. L'amour de Dieu, ça s'accepte. 1 Jean 4, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » Ça veut dire que ça vient de lui. L'amour ne dépend pas de mes actions. L'amour de Dieu pour moi ne dépend pas de mon service. L'amour de Dieu, bah c'est parce qu'il est amour. C'est sa nature. Troisième chose à nous rappeler, c'est que si nous, nous pouvons l'aimer, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Et notre amour à nous, ça sera toujours une réponse à son amour à lui. Donc au final, la question, c'est pas de savoir si Dieu m'aime. La question, c'est de savoir si moi, je l'aime. La question, c'est pas de savoir s'il va me choisir. Il vous a choisi. La question, c'est est-ce que vous, vous allez le choisir, lui ? La question n'est pas de se poser « Est-ce que je suis précieux pour lui ?» Oui, vous êtes précieux pour lui. Il a payé le prix. La question c'est « Est-ce que lui, il est précieux pour vous ?» C'est ça la question à se poser. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, ça veut dire que Dieu appelle tout le monde. Dieu veut et désire cette relation avec tout le monde. Mais tout le monde ne répond pas à cet amour. Donc ceux qui sont élus, c'est ceux qui acceptent l'appel. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est toujours en réponse à son amour. Dieu ne dit pas, si tu fais ça, et puis ça, alors je vais t'aimer. Dieu dit, parce que je t'ai aimé, j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Parce que je t'ai aimé, je suis venu. Parce que je t'ai aimé, j'ai pris ma croix. Parce que je t'ai aimé, j'ai pris la colère de Dieu qui te revenait sur moi. Et parce que je t'ai aimé, je t'appelle encore, etc., etc. Quatrième chose que l'on peut voir, c'est que Dieu vous laissera toujours libre de choisir de l'aimer ou non. Dieu ne forcera jamais, jamais, personne à l'aimer. D'ailleurs, on ne peut pas forcer l'amour. S'il y a bien une chose que vous pouvez choisir, vous, et que moi je ne peux pas faire à votre place, que personne ne peut vous empêcher de faire et que personne ne peut vous forcer à faire, c'est d'aimer. Parce que l'amour, c'est un choix que seul vous pouvez faire. Au final, attention à utiliser une jolie image, le jardin où pousse l'amour, c'est la liberté. Là où l'amour peut grandir, et là où votre amour peut grandir pour quelqu'un, c'est dans la liberté. Si je prends quelqu'un et je dis « Hey, il faut que tu aimes lui », mais t'es obligé, ça va faire l'effet contraire. On ne peut pas forcer l'amour. Et avec Dieu, c'est pas un mariage forcé, hein. C'est pas une relation forcée. Dieu vous laissera toujours libre, parce que l'amour, c'est un choix qui se fait volontairement. Et Dieu ne vous forcera jamais, jamais à l'aimer. Et souvent, nous, on a ce tort d'essayer de pousser les gens à aimer Dieu. Mais c'est horrible, parce qu'on fait l'effet inverse. Plus on pousse quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre, plus ça fait l'effet contraire. Mais plus on donne la liberté à quelqu'un de choisir, plus on lui donne la possibilité d'aimer réellement une personne. C'est comme ça que ça marche. Et même, on voit dans la Bible que Jésus éprouve régulièrement l'amour pour que les personnes qui le suivent, ça soit toujours un choix, mais que ça soit jamais en dépit. On voit dans la Bible, à un moment, les disciples, Jésus, il a dit des choses un peu dures. Et il y en a plusieurs des disciples qui s'en vont. Ils disent, mais cette parole, elle est trop dure. Qui peut supporter? Qui peut l'écouter? Et donc, il y a des disciples qui s'en vont. Et que va dire Jésus à ceux qui restent? Attendez, j'écris. Oui. Il va dire, et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller? Il laisse encore la liberté. Et vous savez, le Seigneur, il pourrait vous dire la même chose ce soir. Et vous, ne voulez pas vous en aller? Mais plaise à Dieu que parmi nous, il y en ait qui répondent comme Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. On voit dans la Bible Ruth et Naomi. Naomi, elle s'en va, c'est une image. Elle dit, reste là. Et Ruth, elle fait, non, où tu iras, j'irai. Elle l'a pas forcé, hein. Elle l'a choisi. On voit Élisée et Élie. Élie va pas arrêter de dire à Élisée, mais reste là. Non, je vais avec toi. Mais reste là. Non, je vais avec toi. Et tout le temps, on aura le choix d'aimer Dieu. Dieu ne vous forcera jamais à l'aimer. Cette décision ne peut venir que de vous. Mais si Dieu vous appelle, cinquièmement, c'est que vous pouvez faire ce choix. Et personne ne peut dire qu'il ne peut pas aimer Dieu. Tout le monde peut choisir Dieu. Tout le monde peut librement faire le choix d'aimer Dieu. Vous savez, il y avait un homme qui était possédé d'une légion de démons. Il y avait beaucoup de démons, hein. Vous savez, les démons, ils n'aiment pas Jésus. Ça ne l'a pas empêché de venir à Jésus. Rien ne peut vous empêcher d'aimer Dieu. Et personne ne vous forcera à le faire. C'est à vous de le faire. Et puis on voit aussi Judas, qui lui a passé 3 années proche de Dieu, et pourtant il n'a pas voulu l'aimer. Dieu nous laisse libres. Que choisissez-vous ce soir? Que choisissez-vous? En tout cas, lui, il vous a choisi. Lui, il vous aime. Et lui, encore ce soir, vous donne la possibilité de le choisir, lui. De le choisir, lui. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Ça, c'est quand on garde le service, mais que la relation se dégrade. Ensuite, deuxième conseil, repens-toi. Eh oui, là, je vous ai parlé d'un choix, mais au final, la repentance, c'est quoi? C'est un choix. Si je me rends compte que dans ma vie, je continue un service, je garde l'apparence, mais qu'à l'intérieur, la relation se dégrade, eh bien, il faut se repentir. Vous savez, la repentance, c'est pas que pour les inconvertis qui viennent. La repentance, c'est pas une porte qu'on passe un jour. La repentance, c'est un chemin qu'on emprunte. Et à chaque fois qu'on voit que ça, on sort un peu du chemin, clac, on se repent et on revient. Là, Jésus va dire à une église, repens-toi. C'est à des chrétiens que ça s'adresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me rends compte que, effectivement, cette relation avec Dieu n'est plus au centre, je choisis d'arrêter de négliger ma relation avec Dieu et de continuer à servir, mais plutôt de remettre au centre de ma vie cette relation avec Dieu. La chose la plus importante, aujourd'hui, maintenant, demain, après-demain, et même dans l'éternité, c'est cette relation avec Dieu. Il n'y a rien de plus important. Et si je me rends compte que je néglige ce qu'il y a de plus important pour moi dans ma vie, alors je peux me repentir. Si Jésus le demande, c'est qu'on peut le faire. Si cette relation n'est plus au centre de ma vie, eh bien ce soir, je choisis qu'elle soit au centre de ma vie. Et demain matin, la première chose que je ferai, la chose la plus importante qu'il y aura dans cette journée, ça sera que cette relation avec Dieu soit au centre. Et enfin, dernier conseil, pratique tes premières œuvres. Alors c'était quoi les premières œuvres? C'était celles qui étaient faites par amour. C'est les œuvres qui, au final, quand on les fait, nous épanouissent. Parce qu'on le fait par amour. Pratique tes premières œuvres. Et enfin, pour terminer, juste rappeler ceci. Si ça va bien, si la relation avec le Seigneur, elle est au beau fixe, on va dire, il faut quand même veiller. Parce qu'une relation, ça s'entretient. C'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. Une relation avec Dieu, avec n'importe qui au final. Ça, ce que je vous appelle, les principes qu'on utilise avec Dieu, on peut les utiliser entre nous aussi. Une relation, c'est quelque chose qui s'entretient. Si je fais des efforts pour entretenir la relation, demain elle sera plus forte. Mais si aujourd'hui je la néglige, demain elle sera plus faible. Vous comprenez? Ben voilà. On voit dans la Bible qu'il y avait deux rois. Il y avait Saül et il y avait David. Les deux avaient un cœur qui était au début comme il fallait. Mais on voit qu'il y en a un qui a détruit sa relation avec Dieu. Et il y en a un autre, il a fait encore plus d'erreurs que le premier. Mais par contre, il y a une chose quand même qu'il a fait. C'est qu'il a entretenu sa relation. Et on voit au final que Dieu regarde au cœur et que David était selon son cœur. Au final, il y avait une relation de cœur à cœur. C'est ça qui est important. Et au final, David était un homme selon le cœur de Dieu parce que, au final, on voit que il y avait cette relation d'amour entre les deux. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. On va courber la tête et on va demander au Seigneur sa grâce. Et j'aimerais faire un appel. Et je vais ni demander de lever la main, ni demander de venir. Parce que, comme je l'ai dit, c'est dans le cœur que ça se passe. Et je crois que le Seigneur, il a parlé ce soir. Et je crois aussi que, aujourd'hui, c'est le temps favorable pour faire un choix. Le choix de Jésus, tout simplement. Le choix de l'aimer, le choix de commencer, de ranimer ou d'entretenir cette relation avec lui. Et simplement, on va prendre un temps dans le silence et que chacun puisse examiner non pas ses œuvres, mais sa relation avec Dieu et faire un choix. Mais ce soir, vous pouvez faire ce choix.